Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Je suis avec Élise Pioche-Balzac, la fondatrice de la marque australienne Maison Balzac. Bonjour Élise et bienvenue dans le programme en français de SBS.
Merci beaucoup, bonjour, je suis ravie d'être là avec vous.
Élise, parlez-moi de votre parcours avant l'Australie. Je crois que vous avez grandi en France, à Béziers, et vous avez débuté votre carrière dans le milieu de la mode.
Oui, tout à fait. Donc, je suis née dans le sud, en Occitanie. On appelle ça le Midi. Et j'y ai grandi jusqu'à mes 18 ans. Une enfance très, très, très heureuse qui, même de nos jours, nourrit ma marque. Donc, vraiment une enfance lumineuse, sous le soleil, avec des parents aimants, entourée de nature, pieds nus, beaucoup d'insectes autour de moi, beaucoup d'animaux, des voyages en Espagne, etc. Et puis, à 18 ans, j'ai fait des études de lettres, d'abord une maîtrise de lettres modernes, avec un sujet autour de Jean Cocteau, qui cela aussi nourrit ma marque aujourd'hui. Et puis, après des études universitaires, j'ai enfin assouvi ma passion pour la mode, que j'ai depuis toute petite. Et c'était une évidence, en fait, pour moi et mes parents que j'étudie la mode. Donc, je suis allée à l'Institut français de la mode à Paris et j'ai fait un master en management du textile et de la mode. Et là, j'ai vraiment découvert l'univers, mon univers rêvé. Je me pinçais en permanence en me demandant si c'était la réalité ou un rêve, tellement je baignais dans quelque chose qui était fascinant et simple, en fait, pour moi. Donc, voilà. Et en 2000, oui, dans les années 2000, en fait, j'ai eu mon premier job dans la mode. Et quel job ? J'ai eu la chance de rejoindre le bureau de presse Hermès, au-dessus de la boutique du Faubourg Saint-Honoré à Paris. Et je m'occupais du service de presse, donc dédié aux collections femmes, dans les collections mode femmes, dont le designer était Martin Margiela, un créateur belge que vraiment je vénérais. Donc vraiment tout ça s'est mis en place de façon fabuleuse. Et ce qui me fait dire que j'ai toujours eu une bonne étoile, en fait, parce que tout ce dont je rêve se réalise souvent, donc je me trouve très chanceuse. Mais voilà, ça c'est la première partie de ma vie, une enfance dans le sud, des études de lettres, un diplôme dans la mode, Paris, et puis en 2004, Paris-Sydney, fait Paris-Melbourne, voilà.
Pourquoi l'Australie?
Alors en fait, j'avais passé 4 ans à Paris, loin de mon sud, et je ne parlais qu'à des Français, en français, je ne parlais que de mode et de luxe, et j'ai trouvé ça assez répétitif, assez redondant, et je pense que tout au fond de moi, j'ai un esprit extrêmement aventurier. J'aime repousser mes limites, j'adore me lancer dans l'inconnu, j'adore faire des découvertes en fait, et avoir des surprises, en général bonnes. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, bon, ben en fait, là, il faut que tu apprennes l'anglais, Élise, et que tu t'exportes. Donc, c'était vraiment pour la langue au départ, ce qui, je pense, c'était vraiment juste un petit prétexte. Et parce que quand on y pense, ben l'anglais, j'aurais pu l'apprendre à Londres, à New York, à Vancouver. Enfin, j'avais beaucoup d'autres pays beaucoup plus proches, mais je pense que c'est là qu'en fait, mon esprit aventurier a vraiment pris le pas. Et j'ai eu envie d'aller aussi loin que possible, en fait, de l'autre côté de la Terre. Et finalement, je me rends compte que l'Australie, c'est... si je voulais aller au-delà, je revenais en France, en fait. Donc, on ne peut pas aller plus loin. Et donc, comme je l'ai dit, je suis partie toute seule avec ma petite valise, sans connaître personne, à l'âge de 28 ans. Et j'ai choisi Melbourne en premier. Et je suis ravie de l'avoir fait parce que, finalement, je trouve que c'est une ville qui a mi-chemin entre l'Europe et l'Australie, alors que Sydney, c'est très australien. Et donc, je suis tombée en amour pour la ville, pour Melbourne. Et puis, très vite, j'ai retrouvé un job chez Hermès, justement, sur Collins Street, dans la boutique. Donc, je connaissais tous les produits, je me sentais quand même un petit peu chez moi. Et puis de là, boule de neige, voilà, j'ai travaillé encore dans la mode après ça, directrice de boutique, puis acheteuse. Mais je vais vous laisser aller à votre rythme, dites-moi.
Et donc, vous êtes allé dans quelque chose d'un peu différent quand vous avez fondé Maison Balzac en 2012. Comment vous est venue l'idée? Qu'est-ce qui vous a inspiré?
Oui, mais en fait, en 2012, à ce moment-là, j'étais en Australie depuis, 2004, donc ça faisait 8 ans que j'étais en Australie. après Melbourne, donc je m'étais installée à Sydney pour un job extraordinaire, donc acheteuse de mode pour une chaîne de boutiques très très haut de gamme qui vendait beaucoup de mode française, en passant de Chloé à Dries Van Noten, Isabelle Marant, Vanessa Bruno, etc. à APC. Et là, en fait, ça m'est d'un coup, je me suis dit, mais attends, Élise, ça fait 8 ans que tu es en Australie, alors que tu es profondément française. Ma famille me manquait, mon pays me manquait. Et je me suis dit, de toute façon, là, quand on est à ce point nostalgique de ses racines, il n'y a que 2 choses que l'on puisse faire. La première, c'est retourner au pays. J'aurais pu le faire. J'étais vraiment très proche de le faire. Ou alors, je me suis dit, mais est-ce que ce serait pas plus rigolo d'amener mon pays en Australie? Et c'est là, en fait, que j'ai décidé de recréer tout ce qui faisait que mes racines étaient heureuses, etc. Et j'ai commencé, donc j'ai trouvé le nom Maison Balzac, donc maison parce que je savais que ma marque allait être dédiée à l'intérieur, à la maison. Et Balzac, c'est le nom de ma famille du côté de ma maman. Donc Janine et André Balzac, mes grands-parents, ma mère Nadine Balzac. Et je trouvais que c'était un nom très vénérable, très beau, très très chic, et puis surtout avec l'étiquette de Honoré de Balzac du 19e siècle, l'écrivain, le Shakespeare français. Et donc j'ai commencé Maison Balzac avec 5 bougies parfumées, et chaque bougie, chaque parfum recréait un moment précis de mon enfance quand j'avais 8 ans, un dimanche. C'était tous les dimanches, c'était à peu près pareil, et on avait cette tradition française ou peut-être familiale de déjeuner tous en famille le dimanche midi. On se mettait à table, on était 10, avec ma famille éloignée, mes 2 frères, mes parents, mes oncles, ma tante, ma cousine, mes grands-parents. Et alors, on mettait une belle nappe avec une belle table, entrée, plat, dessert, des petits plats mijotés, des bougies, on parlait, on riait. Et après le repas, on allait se balader en forêt. Puis le soir, ma grand-mère me faisait couler un bain à la lavande. Et en fait, j'avais la nostalgie de ces moments précis. Donc, ma marque, en fait, c'était les premiers piliers pour, étendre et revivre mon enfance, en fait, à l'infini. Et ça a vraiment marché. Je pense que toutes mes intentions, mes émotions que j'ai mis dans la marque, les gens, ça, ils le sentent, en fait. Et moi, quand je vends, par exemple, une bougie qui sent le bain à la lavande que ma grand-mère me faisait tous les dimanches soirs, ben, je sais qu'il y a certains clients qui l'ont acheté pour leur mariage. C'est devenu leur souvenir de mariage. Et en fait, je pense que moi, ce que je fais, c'est que je fabrique des souvenirs et des émotions au-dessus des miennes, en fait. Ça part des miennes et en fait, c'est pour chacun, en fait, se l'approprie et fait sa propre histoire. Mais voilà, en 2012, c'était vraiment par nostalgie pour mon passé, pour ma famille que j'adorais. Et voilà, et en fait, au lieu de revenir, je suis restée, mais j'ai recréé mon petit bout de France à Sydney. Et 12 ans plus tard, bah, mes 5 produits, c'est devenu 300. Je ne vendais que dans 5 boutiques. Maintenant, on est dans 180 boutiques dans le monde entier. J'étais toute seule pendant des années à créer mon petit univers balsacien. Et maintenant, on est une équipe de 20. Enfin, vraiment, ça a été un parcours extraordinaire qui, je pense, n'aurait pu arriver qu'en Australie.
C'est très impressionnant. Donc, à la base, une ligne de bougies, qu'est-ce que vous offrez maintenant? Qu'est-ce que c'est maintenant Maison Balzac?
Oui, mais c'est vrai que voilà, j'ai commencé avec 5 bougies et je pense que c'est à peu près pour les 5 premières années, je n'ai fait que grandir ma collection de bougies. Donc, je suis arrivée peut-être à 10 et je faisais beaucoup de collaborations avec des artistes qui me plaisaient, des fleuristes, des peintres, des chefs cuisiniers, des designers de mode, etc. Donc, j'assimilais leur monde et le mien et on créait des choses vraiment assez fascinantes. Et puis, en fait, depuis le début, moi, je me disais, les bougies, ce n'est qu'un début. Et je veux vraiment étendre l'univers Maison Balzac dans chaque pièce d'une maison. Et en fait, la première pièce à laquelle je me suis attelée, c'était dans la chambre, en fait. Et je me suis dit, bien, le soir, je sais que la nuit, ma grand-mère, elle me mettait une petite carafe sur ma table de chevet avec un verre. Cette carafe était coiffée d'un verre au-dessus du goulot pour que aucune poussière ne tombe à l'intérieur. Et je me suis souvenue de ça et je me suis dit, ben voilà, mon deuxième objet Maison Balzac, ça va être une carafe avec un verre. Donc, j'ai dû trouver un souffleur de verre avec les bonnes couleurs, les bonnes proportions. Et donc, je faisais des petits dessins. Et même à ce jour, je fais encore mes petits dessins très naïfs que j'envoie à mes fabricants. Et ils arrivent à traduire l'esprit. Ils me donnent des conseils. Et on arrive comme ça en partenariat à créer des objets qui sont simplissimes à la base, mais qui ont toujours une touche soit française, soit humoristique, etc. Et cette première carafe, donc, que j'ai lancée en 2017, je m'en souviendrai toujours, c'était dans une chambre d'hôtel à Sydney, ça s'appelait The Eau Claire Hotel, qui n'existe plus. Et j'avais mis sur une petite table basse mes cinq carafes alignées. Autour, il y avait mes bougies. J'avais aussi, à ce moment-là, j'avais fait une collaboration avec le plus ancien fabricant de plaids en mohair et en laine de France, qui s'appelle Brun de Vientiran, qui sont basés pas très loin de chez moi, dans le sud de la France, à Lille-sur-la-Sorgue. Et donc, j'avais fait une toute petite collection de plaids en laine, parce qu'aussi, je me souvenais que dans ma famille, le soir, on se mettait sur les genoux un petit plaid quand on prenait le thé. Enfin, vous voyez, c'était des petits moments comme ça. Et donc, je recréais par extension toutes ces images que j'avais dans ma tête. Quels sont les objets que je vois quand je ferme les yeux qui faisaient qu'on touche à l'essence, en fait, du bien-être ou du confort? Pourquoi on se sent bien dans ce salon? Pourquoi on se sent bien dans cette chambre? J'essaie d'articuler cela avec des objets, mais et tous ont une histoire véridique reliée à mon enfance ou à mon art de vivre à la française avec mes parents et mes grands-parents. Et donc, en 2017, ces carafes et ces verres et ces plaids, mais ça a été un succès instantané. Les premiers acheteurs me disaient bon, on voit pas trop le lien entre des bougies et des verres, mais pourquoi pas? Et en fait, pour moi, c'était une évidence. Et je sais que pour certaines personnes, chaque fois, ils me disent mais quoi, maintenant tu fais des couverts en argent, maintenant tu fais des assiettes. Et pour moi, la logique que j'ai derrière cela, c'est je rentre dans la maison Balzac, je regarde tout ce qu'il y a autour de moi et je le traduis en objet de façon moderne, contemporaine, avec des fabricants que je source moi-même. Donc moi, ça fait tout à fait sens. Il y a toute une logique et toute une histoire et c'est infini, je peux continuer. Ça n'a pas de fin. Voilà, j'ai pas encore assouvi tous mes rêves balzaciens, ça c'est sûr.
Il semble avoir beaucoup d'histoires derrière chaque pièce que vous créez, donc ça va peut-être être difficile de répondre à ça, mais est-ce que vous avez une ou des pièces préférées que vous avez créées au cours des dernières années?
Ah oui, en fait, c'est pas dur du tout. Voilà, moi, je suis très prolifique et je crée beaucoup. Et encore, ce que l'on voit publiquement de Maison Balzac, c'est peut-être un tiers de ce qu'on arrive à développer. Donc, il y en a au moins deux tiers qui n'ont jamais vu la lumière du jour. Et je dois vous avouer que j'ai un favori. Et ça l'est depuis des années, depuis 2020 ou 2019. Et en fait, c'est un escargot en marbre, qui est un escargot, mais extra large, hein, il est énorme. Et en fait, il est fait à la main par un couple qui habite dans le Gers. Et ils ont créé une technique par laquelle, en fait, ils recyclent toute la poussière de marbre des carrières de Carrare en Italie. Ils la ramènent en France, ils la mélangent à une espèce de lait colle qui fait que ça devient comme un liquide, qu'ils versent dans des moules en silicone dont la forme a été dessinée par moi-même. Ensuite, ils l'adoucissent à la main, ils le polissent à la main. Et en fait, sur sa tête, il y a deux trous et dans chaque trou, on met un bâton d'encens. Et en fait, c'est un escargot géant qui, en fait, est un porte-encens. Et pour moi, lui, il symbolise ma vie en entier. C'est-à-dire que quand j'étais petite, je passais des heures entières dans le jardin à observer surtout les fourmis et les escargots. C'était vraiment mes meilleurs amis. Et j'adore en fait le fait que les escargots soient très timides. Et en fait, quand ils ont peur ou quand on leur touche les antennes, ils aiment pas trop, donc ils les rétractent, ils les rentrent dans leur tête. Mais en fait, il faut juste s'asseoir à côté d'eux, être patient, et au bout d'un moment, ils vont les ressortir pour nous regarder. Et je trouve que cette espèce de connivence ou de complicité avec un galopode comme ça, un petit escargot, je trouve ça d'une poésie immense. Et d'avoir réussi à intégrer un escargot dans ma collection, vraiment, voilà, c'est l'essentiel de ce que je suis, en fait. C'est poétique, c'est un peu Alice au Pays des Merveilles, mais à la fois, c'est utile. C'est-à-dire que cet escargot, voilà, il va aider à ce que le salon, il sente bon, mais de façon très belle. Et surtout, même sans ses antennes, il est beau. Donc, en fait, c'est un espèce d'objet d'art, très nostalgique pour moi. C'est un escargot, et je sais que tout le monde n'aime pas les escargots, et j'adore être... j'aime avoir des concepts tellement forts que tout le monde ne va pas aimer, en fait. J'essaye d'être juste très sincère et d'avoir mon univers à moi avec des mouches, des crevettes, des homards. Et pour certaines personnes, un escargot, c'est pas très propre ou c'est pas très beau. Et pour moi, je le trouve magnifique. Donc, voilà la raison pour laquelle l'escargot, c'est mon héros. Et on en fabrique à peu près 50 par an. qu'on importe de France. Et je trouve que chaque personne qui a la chance d'avoir cet escargot géant dans son salon, ben, ils ont la même poésie ou le même goût pour l'imaginaire que moi, et ça me fait très plaisir.
Et puis, vous disiez plutôt que vous n'auriez pas vu votre marque évoluer autant ailleurs qu'en Australie. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial en Australie?
Alors, en fait, je pense que déjà, j'aurais pas osé démarrer en France, parce qu'il me semble que le marché à la fois français et européen et de l'hémisphère du Nord en général est assez saturé. Et l'impression que j'avais, moi, en 2012, c'est que l'Australie était un pays qui était avide de nouveautés, qui avait envie de prendre des risques en découvrant des choses. Donc, j'avais senti qu'il y avait une place pour moi et pour mon monde imaginaire. Donc, être ici, définitivement, m'a poussé à commencer. Et aussi, le développement de la marque, comme je vous disais, quand un acheteur qui vient pour acheter des bougies, on lui présente une carafe en verre, ils avaient cette ouverture d'esprit de se dire, ah oui, ben, je m'y attendais pas, mais pourquoi pas, en fait. Et j'adore cette idée de to give it a go, d'essayer, en fait, de prendre un petit risque. Et donc, moi, c'est forte de tous leurs commentaires et de tout leur encouragement, en fait, je n'ai eu aucune limite, en fait. Et je suis certaine qu'en France, j'aurais eu beaucoup de retours, je pense, beaucoup plus, avec beaucoup. Bon, les gens m'auraient dit, mais tu es sûre, réfléchis, il vaut mieux la sécurité que la folie, ou que, voyez, alors qu'ici, non, quoi, je sens que l'Australie est avide de cette espèce de quirk, de folie, et c'est peut-être juste une idée que je me fais, hein, mais en tout cas, je sais que c'est ce pays intérieurement qui m'a rendu, qui a tout rendu possible.
Non, je pense que c'est quelque chose qu'on entend quand même souvent de gens qui ont démarré leur entreprise ici, où ils ont l'impression que tout est possible en Australie.
Oui, c'est vrai. J'en suis la preuve.
Et dites-moi, Elise, donc à quoi on peut s'attendre cette année avec Maison Balzac? Qu'est-ce que vous pouvez nous révéler?
Oui, alors en fait, chaque année, ça c'est mon passé de maîtrise de lettres et ma passion pour la littérature. Chaque année, je place l'année Maison Balzac sous un thème en particulier. Et je me souviens qu'on faisait cela chez Hermès aussi. Et donc, cette année, le thème que j'ai choisi, c'est Cadaqués, qui était le village dans lequel habitait Salvador Dali au nord de l'Espagne. Et en fait, ce village, il est à peu près à 1h30 de route de ma maison à Béziers. Donc souvent, avec mes parents, on y passait un week-end par mois. On allait visiter la maison de Dali. C'est vraiment son monde surréaliste a vraiment baigné mon enfance, mon adolescence, et aussi en maîtrise de lettres. Donc j'ai fait un mémoire sur Jean Cocteau et tout l'esprit surréaliste des ballets russes, de Picasso, André Breton, et surtout Cocteau et Dali. Et donc moi, toute cette année, je me suis amusée à tricoter les thèmes surréalistes sur chaque collection. Donc vous pouvez vous attendre à 4 petites capsules d'objets complètement délirants en février, avril, août et octobre. On va lancer des petites collections vraiment amusantes avec des couleurs bleu indigo comme le bleu de la mer, des couleurs ambrées comme l'écorce des pins centenaires qu'il y a au bord de la mer en Méditerranée. Il y a beaucoup de soleil, des petits piments que l'on met dans les paellas, il y a des homards, il y a des filets de pêche, des barreaux de chaises anciennes australiennes, mais en fait c'est des trompe-l'œil parce que ce sont des bougies à allumer. Donc voilà, beaucoup de clins d'œil, beaucoup d'humour. Il y a à peu près 80 nouveaux produits qui arrivent là, donc à partir de début février. Donc c'est vraiment une collection et une année dont je suis hyper fière, parce qu'en fait presque chaque objet vous fait sourire. Et je trouve que quand on arrive à créer des émotions comme ça chez les gens, pour moi c'est gagné, en fait. Surtout avec le climat actuel, beaucoup de choses ne vont pas dans le monde. Il y a toujours des choses qui ne vont pas. Et moi, j'ai l'impression que ma mission avec ma marque, mon désir en tout cas, c'est de donner une petite bulle de sérénité, d'amusement, de sourire et de délire un peu surréaliste. Ça me fait plaisir de savoir que j'arrive à fournir ça au monde, en fait, pour contrebalancer tout le reste.
Je pense que vous réussissez très bien, puis on va garder un œil là-dessus. On est curieux, donc ça s'en vient bientôt. Merci beaucoup, Élise Pioche-Balzac, d'avoir pris le temps de nous parler de Maison Balzac, de vos inspirations, de l'histoire derrière la marque.
Oui, ben écoutez, c'était vraiment un plaisir de revivre tout ça avec vous et je suis vraiment ravie d'avoir été invitée. Merci à vous.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.